Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. L'année 2020 a commencé avec l'assassinat du général iranien Soleimani. C'est poursuivi avec la crise de la Covid-19 aux conséquences économiques et sociales desquelles nous ne sommes pas sortis. Des attaques terroristes en France, mais pas seulement. En Afrique également, au Nigeria, avec l'enlèvement de nombreux lycéens, le durcissement des crises comme dans le Haut-Karabakh, la Turquie et la Russie qui ont avancé des pions, le Brexit en préparation qui va marquer une rupture majeure, l'élection de Joe Biden aux États-Unis, l'intensification de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, l'Europe qui cherche à affirmer sa souveraineté, cet autre assassinat en Iran du scientifique Fakhrizadeh, figure du nucléaire iranien, et sur un autre registre, l'exécution récente d'un opposant iranien. 2020, ou la chronique d'une exacerbation des rapports de force, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone, Valérie Niquet, spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de plusieurs ouvrages, dont La puissance chinoise, un géant fragile, point d'interrogation, aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Toujours par téléphone, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont je signale la parution de deux revues. L'édition 2021 de la revue Ramsès, qui a pour titre Le grand basculement, point d'interrogation, aux éditions d'Uno, et le dernier numéro de Politique étrangère consacré au Brexit. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et en studio, Bertrand Badie, professeur de relations internationales à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
La victoire de Joe Biden a été confirmée cette semaine par le collège électoral. La victoire de Biden est vue comme une bonne nouvelle pour le monde. Néanmoins, la politique de Trump n'a pas eu que des points négatifs. Il fut le premier à dire des choses que personne n'avait dites avant lui. Il a accusé les Chinois de vol technologique par le cyberespionnage ou intimidation des sociétés occidentales installées en Chine. Autre point positif, le réveil de l'Europe. Bertrand Badie, vous partagez ?
Les points positifs, on peut toujours gratter et en trouver, mais je ne suis pas très convaincu, parce que avec maintenant le recul de 4 ans d'exercice de son mandat, on s'aperçoit que Trump a été véritablement toxique pour le système international. Et j'emploie le terme après l'avoir soigneusement choisi. Pourquoi toxique ? Parce que on n'a jamais assisté, en un laps de temps finalement si court, à un tel démantèlement des mécanismes multilatéraux. Et pas seulement sur le plan formel et institutionnel, je pense à l'OMS, je pense à l'UNESCO, je pense à l'UNRWA, je pense à la Convention sur la migration, et on pourrait en trouver beaucoup d'autres, à la COP21 bien entendu, mais aussi sur le plan de la pratique. C'est-à-dire, c'est une nouvelle diplomatie qui s'était mise en place, qui est la diplomatie de la non-négociation, qui se subdivise en deux, soit celle du troc, qui est le contraire de la négociation diplomatique, parce que le propre d'une négociation diplomatique, c'est de déboucher sur un ordre international fonctionnel, ou alors tout simplement sur l'image, c'est-à-dire une diplomatie d'image destinée à la consommation de son électorat. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir peur des mots. Le bilan est absolument désastreux. Mais arrêtons de tirer sur l'ambulance et regardons devant. C'est-à-dire effectivement, cette élection de Joe Biden pourrait donner l'impression d'une fermeture de parenthèse. Je n'en suis pas si sûr. Parce que on n'a pas suffisamment dit que la défaite de Trump était accompagnée d'une relative victoire du Trumpisme. C'est-à-dire ce courant qui, après ses 4 ans, a recueilli 74 millions de voix, ce qui n'avait jamais été obtenu auparavant par un candidat républicain.
Mais parce que jamais autant d'électeurs non plus américains ne s'étaient prononcés.
Oui, mais justement, pourquoi c'est-à-dire cette espèce d'activation de la participation n'était pas seulement destinée à mettre un terme à la parenthèse de Trump, mais aussi de continuer à exprimer son adhésion à ce qui est, et j'en viens là à une autre figure du trumpisme, pas seulement une sorte de négation du jeu international, mais d'affirmation néo-nationaliste avec laquelle Biden devra compter. D'ailleurs, on ne peut pas abolir 74 millions de voix comme ça. C'est-à-dire, il y a une transformation profonde de la société américaine. Faut quand même pas oublier ce paradoxe, c'est que la superpuissance mondiale est devenue la première contestataire de l'ordre international et notamment de la mondialisation. Donc, tout ceci ne va pas disparaître. Ajoutez à cela que Biden s'appuie d'abord sur un congrès qu'il ne contrôlera probablement pas.
Réponse en janvier prochain avec l'élection
enfin,
en Géorgie.
Je veux dire, en mettant les choses au mieux, qui relèvent presque du rêve, on sera à 50-50 et un arbitrage par le vice-président, la vice-présidente,
Kamala
ce qui quand
Harris.
Même montre la fragilité de la chose. Mais il y a un autre problème, c'est que Trump a un électorat assez homogène. Biden a été porté à la présidence par un parti démocrate et un électorat démocrate qui est scindé en trois. C'est-à-dire un reliquat d'un néoconservatisme soft incarné par Hillary Clinton, au contraire une aile gauche qui rassemble beaucoup de jeunes et qui a soutenu Bernie Sanders et Elizabeth Warren, donc qui va compter et qui ne se retrouve pas du tout dans la version Hillary Clintonienne que je désignais tout à l'heure, et puis un centrisme qu'il incarne lui-même, mais qui finalement est minoritaire dans son parti. Ajoutez à cela un dernier élément, c'est que je vois mal aujourd'hui quels sont les partenaires, dans le monde actuel tel qu'il est, sur lesquels Biden pourra s'appuyer pour remettre l'ordre international sur les rails. L'Europe est plutôt léthargique. Je ne crois pas du tout à un réveil de l'Europe qui serait dû au mauvais génie trumpien. Ça ne s'est pas produit. Et on l'a vu encore récemment. L'Asie n'est pas tellement décidée, mais on verra avec Valérie Niquet, à servir la soupe du président des États-Unis. Et Monsieur Poutine ne semble pas particulièrement bien disposé à son égard. Donc, il faut pas croire que le cauchemar est terminé.
Alors, on va bien sûr poursuivre le tour de table. Je commence peut-être avec vous, Valérie Niquet, sur l'Asie. Alors, on a vu Joe Biden choisir une experte de la Chine, négociatrice commerciale, Catherine Tai, qui est de parents chinois émigrés de Taïwan. Ce qu'il me semble qu'il se soit passé durant les quatre années de Trump, même si là on est plus sur un bilan 2020, c'est tout de même, alors mais je parle sous votre contrôle, une certaine perte de prestige et de crédibilité des États-Unis dans la région. Vous confirmez, Valérie Niquet, avec pour effet finalement une Chine qui en a plutôt tiré profit?
La première chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas parler d'Asie. Et ça vaut pour les méthodes de contrôle et les positionnements. C'est un peu comme si, à l'époque de la guerre froide, on avait parlé de l'Europe d'une manière générale, en y incluant systématiquement l'URSS, comme si, d'évidence, les positions étaient les mêmes.
Donc la Chine
L'Asie
n'a pas.
Est extrêmement diverse. Et ses positions, y compris par rapport aux États-Unis, dépendent totalement de leur positionnement démocratie, si non démocratie, favorable à l'ordre libéral, et non favorable. Alors évidemment, la Chine est à part. Elle a ses propres intérêts et son principal intérêt, l'intérêt du régime chinois, qui encore une fois ne coïncide pas forcément avec ceux qui seraient ceux de la Chine en tant que nation, c'est de se maintenir au pouvoir, d'imposer l'image d'une puissance dominante et non contestée et non contestable, y compris auprès de sa propre population. Face à l'élection de Biden, la Chine est assez ambiguë. Évidemment, Trump lui avait donné l'occasion de sembler s'affirmer comme le leader, le champion du multilatéralisme, alors qu'en réalité, la Chine est très très loin des principes multilatéraux. En revanche, Trump avait porté des coups extrêmement sévères qui avaient mis très clairement en évidence les faiblesses chinoises, et notamment d'un point de vue technologique, avec ces fameux embargos sur l'exportation de microchips qui sont essentiels aux grands de la high-tech chinoise. Je pense à des grandes compagnies comme ZTE ou Huawei dans les télécoms, qui se trouvent face à un dilemme considérable, à moins que Biden revienne sur les décisions, qui est que la Chine n'a pas les capacités technologiques, en dépit de ses efforts continus depuis maintenant près de 20 ans, de produire les éléments absolument essentiels d'un point de vue technologique qui sont encore entre les mains des Américains et des entreprises qui travaillent avec des éléments innovations technologiques qui viennent des États-Unis. Donc Trump, comme vous le disiez au début, a mis en évidence les faiblesses de la Chine. Et face à un régime comme le régime chinois, je pense, hélas, que ce type de rapport de force assez brutal, derrière les discours sur, encore une fois, la démocratisation des relations internationales ou le multilatéralisme, est sans doute beaucoup plus efficace que tout ce qui pourrait être recette, main tendue, apaisement, dialogue, reprise du dialogue, même avec des conditions. La Chine adore le dialogue, parce qu'un dialogue peut se prolonger indéfiniment, on l'a vu dans le cas de la Corée du Nord, par exemple, sur le nucléaire, ne jamais aboutir, et que chaque reprise du dialogue est présentée ou perçue comme un progrès, sans qu'aucun engagement ne suive derrière. Ça, c'est la position chinoise. On verra, les Chinois, d'après ce qu'on en lit de ce qui est publié en Chine aujourd'hui, n'attendent qu'une chose de Biden, c'est justement qu'il apaise les relations avec la Chine, qu'il reprenne le dialogue sur une série, d'une série de sujets, et c'est la situation que Pékin espère aujourd'hui. On verra ce qui se passera. La Chine espère aussi bien sûr que Biden se focalise sur les enjeux de politique intérieure, sur les enjeux globaux et se détourne des pressions qui étaient exercées sur Pékin et qui avaient des effets très négatifs pour le régime chinois. Pour les autres pays de la région, je pense notamment au Japon et à la Corée du Sud, les choses sont beaucoup plus ambiguës. Ce que eux attendent, c'est un engagement de la part des États-Unis. Alors bien entendu, ils saluent le retour à une politique plus prévisible avec l'équipe Biden qui était assez connue dans la région, qui ce sont ceux qui étaient déjà présents à l'époque de Obama. Donc il y a un côté rassurant, mais il y a aussi un côté légèrement inquiet, dans la mesure où ce que ces pays attendent en premier, on est bien loin des enjeux de sécurité globaux, c'est de la sécurité très dure, parce qu'ils sont confrontés à une puissance chinoise qui a des revendications territoriales très classiques, qui multiplie les incursions dans leurs eaux territoriales ou dans les zones économiques exclusives, par exemple. Ça vaut également pour des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam. Et donc pour ces pays, même si la Chine est importante en termes commerciaux, l'engagement de sécurité très direct des États-Unis dans la région et la volonté d'équilibrer la puissance chinoise est également un enjeu très fort qui pèse sur leur positionnement et la manière dont ils jugeront la nouvelle présidence américaine.
Alors, demande de sécurité très dure de la part d'un certain nombre de pays asiatiques, on l'a bien compris, demande de sécurité militaire, c'est cela qu'il faut entendre.
Voilà. Hard security, dans le sens de hard security. Oui.
Alors, Biden apaisera-t-il la relation avec la Chine, Valérie Niquet posait la question. Thomas Gomard, le nouveau président américain qui prendra donc ses fonctions le 20 janvier prochain, promet d'impliquer désormais les alliés des États-Unis dans sa politique à l'égard de la Chine. Et pas seulement. Alors, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, parle d'une nouvelle donne transatlantique à réinventer, différente d'avant, avec nécessité d'une Europe plus souveraine, d'une relation transatlantique rééquilibrée. Bertrand Badi disait que le réveil de l'Europe, il n'y croyait pas. Vous y croyez, Thomas Gomard ?
Disons que je suis nuancé sur la portée de ce réveil, mais qui est quand même, à mon avis, visible. Avant de répondre, moi, je voudrais faire un retour, si vous permettez, Marie-Franchatin, sur le bilan Trump. Parce que j'ai une lecture un peu différente. Alors, le problème fondamental de Trump, et c'est effectivement le Trumpisme, est le fait que la méthode fait des ébules, et en particulier en Europe. C'est-à-dire que la méthode de prise du pouvoir, d'évolution du jeu démocratique, se retrouve ailleurs qu'aux États-Unis et aura des conséquences déjà visibles d'ailleurs en Europe. Moi, je vois quand même trois choses qui nuanceraient peut-être le bilan très sévère établi par Bertrand Badi. D'abord, Donald Trump n'a pas commis de faute stratégique, au sens où il est intervenu nulle part. Il a effectivement mis fin aux interventions américaines, en ce sens fermant un cycle ouvert depuis, au fond, 2001. Que ça mérite d'être noté. Et que ensuite vous avez commencé votre présentation en rappelant l'assassinat du général Soleimani qu'il a commis en territoire irakien. Ce qui était quand même la manière la plus évidente de montrer aussi le jeu joué par Téhéran au Moyen-Orient. La deuxième chose qui est quand même à noter, c'est l'évolution de la relation d'Israël par l'action des États-Unis vis-à-vis à la fois des Émirats Arabes Unis et également du Maroc. Et ça, je pense qu'on ne mesure pas bien la portée de cette transformation pour ce qu'on appelle peut-être là aussi, sans prendre suffisamment en compte le caractère divers, ce qu'on appelle le monde arabe. Il y a à mon avis un changement de pied tout à fait notable et qui peut être imputé à l'action de Donald Trump. Troisième point, et là je pense ça me permet de revenir sur votre question initiale, c'est le fait qu'avec Donald Trump, les États-Unis, et je pense que ça sera repris par Biden parce qu'il n'aura pas le choix, considèrent que être le garant ultime du système du système de 1945, c'est fini. C'est-à-dire que ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte. En revanche, ce qu'ils réaffirment, c'est d'être le primus inter pares du système international. Ce qui s'est passé au fond au cours des 20 dernières années, c'est que la Chine est devenue numéro 2 au détriment des Européens sur la scène internationale et convoite la première place. Et que je pense que ce que Trump a déclenché, c'est effectivement un découplage, une guerre technologique. Et passez-moi la facilité d'expression, mais ça part trop vite en fait pour les Chinois de ce point de vue-là. Et ce faisant, Trump crée un effet de consensus qu'on retrouve très largement aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une focalisation aux États-Unis sur cette rivalité systémique avec la Chine et avec le sentiment que c'est une rivalité qui va être multidomaine, à la fois sur la technologie, mais également sur le climat, sur les questions d'alliance, etc. Dernier point donc pour répondre sur l'Europe. L'Europe est en train de découvrir la notion de souveraineté technologique, mais également en train de se rendre compte que les transferts de technologie, ça passe par des alliances militaires, et ça passe notamment par l'OTAN. Et donc là, il y a un problème qui est propre à Paris, c'est-à-dire je pense que nous avons surestimé à Paris le mouvement allemand vers l'autonomie stratégique européenne. En réalité, les fondamentaux rejouent et il y a une puissance du germano-américain qui est en train de s'exprimer à la faveur de l'élection de Joe Biden et dans la perspective de la succession d'Angela Merkel.
Alors Bertrand Badi, quand Thomas Gomard a dit qu'il n'avait pas relevé de faute stratégique de la part de Trump, vous sembliez absolument aller en total désaccord.
J'ai eu un petit malaise dont je suis en train de sortir là, parce que cher Thomas Gomard, là-dessus, je ne peux pas même envisager une perspective d'accord avec votre analyse, parce que, regardez le Moyen-Orient. Première erreur stratégique dénoncée. Le traité du 14 juillet 2015 qui a créé une situation sans aucun contrôle dans la région.
Sur le nucléaire iranien.
Sur le nucléaire iranien. Deuxième élément, cette construction active d'un axe Washington-Tel Aviv-Riyad qui a pour effet d'ajouter le conflit au conflit et de ne créer aucun instrument de régulation dans la région. C'est-à-dire, si les choses sont encore plus bloquées aujourd'hui, c'est parce que au vieux clivage vient ainsi se superposer un nouveau clivage. Quant au dossier palestinien, je suis d'un avis totalement contraire au vôtre. C'est-à-dire la diplomatie du troc qui a fait que les Émirats ont reconnu Israël parce que les Américains leur donnent des avions de chasse en échange, que le Soudan l'a reconnu parce qu'en échange, il est retiré de la liste des terroristes. Et que, chose quand même ahurissante, le Maroc reconnaisse Israël parce que je t'abandonne les Palestiniens et tu me donnes les Sahraouis, c'est vraiment d'un cynisme diplomatique épouvantable et qui crée toutes les conditions de l'instabilité. Le propre d'un jeu international, c'est d'être régulé par les logiques de reconnaissance. Là, c'est exactement le contraire, c'est la logique du troc, ce qui va créer des tensions supplémentaires énormes. Par ailleurs, effectivement, l'année a commencé avec l'assassinat de Qassem Soleimani, elle se termine par l'assassinat de Fakhrizadeh, assassinat auquel on n'a pas été suffisamment attentif, qui peut-être a coûté la vie à Ruhollah Azzam, auquel vous faisiez allusion, parce que l'Iran sait qu'elle ne peut pas répliquer sur le territoire israélien, donc elle le fait dans ses propres prisons, ce qui est une source d'instabilité, de tension et de violence absolument terrifiant. Donc, non, je crois que le grand problème de Biden, d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est de se demander comment on peut reconstruire sur ce champ de ruines. Parce qu'il s'agit bien d'un champ de ruines. Et face auquel, la diplomatie européenne était muette comme une carpe. La carpe européenne.
On poursuit après le journal et on vous retrouve Bertrand Badi. Je vous donnerai la parole Thomas Gomard parce que malheureusement on n'a plus le temps, je vous promets, on redémarre la deuxième partie de l'émission avec vous. On vous retrouve donc Bertrand Badi, Thomas Gomard et Valérie Niquet après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'année 2020. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Valérie Niquet, spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur donc de plusieurs ouvrages, notamment La puissance chinoise, un géant fragile, point d'interrogation, aux éditions Talendier. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont je signale la parution de deux revues, l'édition 2021 de la revue Ramsès, avec pour titre Le Grand Basculement, et le dernier numéro de Politique étrangère consacré au Brexit. Et Bertrand Badi, en studio avec moi, professeur de relations internationales à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, aux éditions du CNRS. Thomas Gomard, on a terminé la première partie de l'émission avec ce désaccord entre vous et Bertrand Badi sur le bilan Trump en termes de politique étrangère. Vous disiez qu'il n'y avait pas eu de faute stratégique de la part de Donald Trump. Bertrand Badi est revenu en évoquant en particulier, et ça a été l'une des premières mesures, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Oui, merci de me donner la possibilité de clarifier mon expression. J'utilisais le terme faute stratégique en termes militaires et en termes d'intervention militaire. C'est-à-dire que, évidemment, le retrait du JCPOA, de la même manière que l'annulation du TTIP, font partie des grandes erreurs commises par Donald Trump. Cela étant, quand on se replace dans le contexte 2016, rappelez-vous, on envisageait précisément une intervention militaire contre l'Iran, également contre la Corée du Nord. Il y avait un certain nombre de craintes en ce sens. Et ce qui est frappant avec Donald Trump, et je maintiens ce point, c'est que d'une certaine manière, il a retenu l'usage de la force. Et ça me semble être en réalité un élément de rupture extrêmement important, à la fois avec les administrations Obama et les administrations Bush. Dernier point, et là je rejoindrai effectivement Bertrand Badi, je ne suis pas du tout en train de dire que la reconnaissance de Jérusalem, enfin de passage de l'ambassade des États-Unis et de Tel Aviv à Jérusalem est un élément positif, mais il est certain qu'en tout cas, elle modifie complètement le rapport de force au Moyen-Orient et plus largement dans le monde arabe, et que c'est probablement facteur d'instabilité, là je vous rejoindrai volontiers, mais ça montre aussi la capacité d'action que conservent les États-Unis.
Alors, j'aimerais revenir sur l'Asie avec vous, Valérie Niquet. Vous nous avez dit dans la première partie de l'émission qu'il s'agissait bien de distinguer entre la Chine d'une part et les États asiatiques d'autre part, avec ce besoin concernant ces derniers de sécurité et notamment du parapluie américain. Alors, on a vu en novembre dernier être signé le plus vaste accord régional de libre-échange du monde, le RCEP, qui en anglais donne le Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, qui est un accord qui associe tous les pays de l'ASEAN, plus la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont plus de 2 milliards de consommateurs, 30% de la population mondiale. C'est un accord plus important que celui de l'Union européenne ou anciennement l'ALENA, l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et finalement, on voit là que les Chinois sont parvenus à combler à leur avantage finalement le vide politique créé par Donald Trump en Asie Pacifique après avoir torpillé le TPP. Les objectifs de chacun, ASEAN d'un côté, Japon, Australie, Chine, évidemment, ce sont des objectifs très, très différents.
Oui, alors c'est très intéressant ce RCEP et la manière dont il a été mis en avant pour des raisons différentes par l'ensemble des acteurs. D'abord, il faut noter une chose, c'est que l'Inde a refusé d'en faire partie, contrairement à ce que les pays de la région espéraient initialement, pour ne pas être envahi justement de produits chinois. Alors d'abord un bémol, c'est que le RCEP est une sorte d'accord de libre-échange global au niveau des pays que vous avez cités, mais l'ensemble de ces pays ont déjà quasiment tous des accords de libre-échange entre eux. Donc la portée concrète du RCEP est plus en termes d'image effectivement qu'en termes de réalité. Le deuxième élément, c'est que effectivement c'est un format que la Chine avait mis en avant pour répondre au projet de TPP beaucoup plus sévère en termes de normes sociales, environnementales, respect de la propriété intellectuelle, etc., et qui n'a pas pu se poursuivre sous la même forme en raison du départ des États-Unis. Donc le RCEP n'a quasiment aucune règle interne de contrôle. En revanche, les Chinois voulaient en faire quelque chose qui soit totalement dominé par la Chine. Or, il y a eu un phénomène de reprise en main de l'intérieur, c'est-à-dire que les Japonais de leur côté, et en partie les Coréens du Sud et les pays de la ASEAN ont également obtenu que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont actuellement des relations très tendues avec la Chine, soient intégrés au RCEP pour en reprendre en quelque sorte le contrôle de l'intérieur, même si la Chine, évidemment, pèse d'un poids considérable. Donc là, il y a tout un jeu dont la dimension est bien plus géopolitique et en termes d'image, la Chine voulant montrer que c'est elle qui décide et qui a le lead dans ce projet, et les autres contrôlant de l'intérieur pour diminuer l'importance de la Chine. L'autre élément, c'est que le RCEP a été présenté également à Pékin comme le triomphe, encore une fois, du multilatéralisme à la chinoise, et que le lendemain même de la signature quasiment de cet accord, elle imposait un embargo qui ne dit pas son nom, mais qui est très clair, sur les importations de vin australien pour punir l'Australie qui a eu le malheur notamment de demander des missions d'inspection plus sérieuses en Chine sur la question du Covid-19. Donc on a tout de suite immédiatement vu quelles étaient les limites réelles en termes d'application concrète de ce RCEP qui, un, ne va pas au-delà des accords de libre-échange qui existent déjà dans la région et qui, par ailleurs, n'interdisent en rien à la Chine de tenter d'imposer des embargos en contradiction absolue à ce qui a été déclaré quelques jours auparavant. Donc je pense qu'on a beaucoup mis en avant le RCEP parce que la magie des chiffres, effectivement, mais que derrière ce RCEP, finalement, la réalité concrète et les rapports de force n'ont pas fondamentalement changé, y compris en Asie.
Alors, Bertrand Badi, on évoquait précédemment la question du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord, le fameux JCPOA, il a été préservé, notamment grâce à l'action des Européens. Le programme nucléaire iranien s'est depuis étendu. On voit aussi l'Iran durcir certaines positions avec des exécutions d'opposants. L'accord sur le JCPOA, est-ce qu'il peut être, d'après vous, renouvelé avant la présidentielle de juin prochain en Iran? Et peut-être plus immédiatement, est-ce qu'il peut y avoir des surprises concernant les dernières semaines de la présidence Trump?
Je crois que le dossier iranien est probablement le point d'intervention le plus fort qui s'ouvre à la présidence Biden. Pourquoi? D'abord parce qu'il l'a toujours dit. Biden a explicitement condamné ce retrait et a considérer que l'essentiel de son énergie portera sur la tentative de renouer les fils, c'est-à-dire pas forcément revenir comme avant, mais en tous les cas d'établir les conditions d'une négociation saine avec l'Iran. S'il s'y prend bien, il y a des fenêtres d'opportunité. Je pense que l'Iran, même aux yeux des conservateurs, a besoin de cet accord et de rouvrir les portes. Mais du coup, première conséquence, ça bloque tout le reste. C'est-à-dire, on voit mal comment Biden pourra progresser sur le dossier palestinien s'il ouvre une porte du côté iranien. Il peut pas envoyer deux claques, si je puis m'exprimer ainsi, à Netanyahou. D'autre part, ce n'est pas gagné non plus, parce que le dossier iranien, bon, c'est un dossier extraordinairement complexe. L'une des très nombreuses erreurs de Trump, c'est d'avoir fait de la stigmatisation de l'Iran un élément clé du jeu régional. C'est-à-dire que vont se réveiller quantité de princes de la région, je parlais de Netanyahou, on peut ajouter MBS, on peut ajouter MBZ, vont immédiatement se crisper. Et on peut aussi parier que tout ceci aura des répercussions indirectes sur les autres fronts, c'est-à-dire le front libanais, irakien et syrien. Donc le jeu est très difficile. Et l'Europe n'existe pas dans ce marchandage, alors qu'elle aurait très bien pu, sinon s'ériger en médiateur, mais du moins exister de manière active.
Dieu sait qu'elle a conservé le lien, l'Europe. Elle s'est beaucoup battue tout de même pour maintenir un dialogue avec Téhéran.
Il faut voir ce que ça a donné. Monsieur Macron a pu faire atterrir l'avion Monsieur Zarif à Biarritz et puis il est pratiquement pas sorti de l'avion. Après, il a essayé de connecter Monsieur Rouhani et Monsieur Trump depuis un standard de New York au moment de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies et puis ils ne sont pas parlé. Avoir une diplomatie autonome implique d'autres cartouches et d'autres pratiques. Mais bon, au-delà de cela, il y a là, je pense, une chance à saisir. Je dirais que dans l'échiquier international actuel, c'est la seule chance réellement saisissable. C'est pas gagné, mais à mon avis, tout le jeu va se cristalliser sur ces rapports, je dirais, Washington-Téhéran pendant les 12 mois qui vont venir.
Alors, j'en viens aux questions européennes et peut-être à la fin de cette émission, on abordera la question de savoir si finalement tous ces dossiers auxquels les États-Unis, l'Europe sont confrontés, c'est du temps gagné pour la Chine. Commençons par le Brexit et la diplomatie d'Emmanuel Macron. D'abord, premier point, victoire de Joe Biden, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Boris Johnson, Bertrand Badie, vous allez me le dire, qui se targuait de sa relation particulière avec Donald Trump, comptait sur son appui. Est-ce qu'on peut parler de renforcement de l'isolement du Royaume-Uni avec en plus cette question du Brexit et la fin des négociations donc en cette fin d'année 2020 et quelques mots sur la diplomatie d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'image de la France a changé ces derniers temps?
Alors, en ce qui concerne le Brexit et Boris Johnson, c'est vrai que le mythe du Global Britain, comme on disait, du grand large et aussi de l'allié privilégié avec les États-Unis, tout ça va ensemble, était fort dans les politiques de Brexit. Faut dire que Boris Johnson, depuis quelques mois, a un peu déchanté. C'est-à-dire que Trump ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux et ils ont eu un certain nombre de frictions qui probablement ont amené à des déceptions. C'est-à-dire que on a cru que le Brexit allait modifier les grands équilibres internationaux et les équilibres atlantiques, ce n'est pas dit du tout. Sur la diplomatie macronienne, ça a quand même été, cette année 2020, une année très délicate, parce que l'action extérieure de la France, exactement, a quelque peu piétiné. On parle de victoire militaire dans le Sahel, mais le général Lecointre, le chef d'état-major général des armées, a récemment dit que on a gagné, mais il va falloir quand même se retirer. Et se retirer dans un scénario politique qui me fait penser au scénario algérien, c'est-à-dire parce qu'on s'aperçoit que les victoires militaires ne servent pas à grand-chose. C'est quand même un revers assez grave, d'autant qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Enfin, d'extraordinaire, je ne sais pas, mais il peut se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la volonté des acteurs locaux de rompre avec cette stratégie et d'en embrasser une autre en jouant de la négociation. Et je pense que ça, c'est une tendance lourde de notre monde actuel, le retour des acteurs locaux et des choix locaux et cette fin des grandes tutelles de puissance que l'on voit sur à peu près tous les dossiers. L'autre problème, c'est que je suis assez préoccupé de voir comment ces dernières semaines, l'image de la France s'est quelque peu abîmée dans le monde. Il y a eu d'abord toute cette polémique, notamment avec la presse anglo-saxonne sur la question de la laïcité et manifestement en tout cas une incompréhension de beaucoup de nos partenaires, et pas seulement les Américains, face à, disons, l'image que nous donnons de nos rapports, notamment avec l'islam. Et puis, cette fameuse loi sur la sécurité globale qui a déchaîné des réactions partout, au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil de l'Europe, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tout ceci est quand même préoccupant, parce que la France vit du soft power et de la diplomatie publique, de cette image du pays des droits de l'homme et des libertés. Là, il y a un cœur international que je ne juge pas, je ne sais pas si ils ont raison ou tort, mais il y a un cœur international qui se fait pour nous parler un peu sur le ton que l'on utilise pour parler à M. Orban ou à M. Kaczynski, c'est-à-dire attention à vos libertés, elles doivent être respectées. Ça, c'est pas très très bon pour l'avenir, effectivement, de notre positionnement dans le monde.
Thomas Gomard.
Mais moi, je serais tenté de relier vos deux questions, c'est-à-dire de se poser la question de la manière suivante, c'est est-ce que c'est la France d'Emmanuel Macron ou le Royaume-Uni de Boris Johnson qui est le mieux préparé aux nouvelles formes de la mondialisation? Ce qui est quand même très frappant dans le cas britannique, c'est le sentiment d'impasse qui prévaut, c'est-à-dire que les Britanniques qui apparaissaient comme pragmatiques, prévisibles et très actifs par rapport à la mondialisation telle qu'on l'a connue, se retrouvent effectivement aujourd'hui avec un leader qui a une crédibilité internationale entamée et qui en même temps ne donne pas l'impression de pouvoir donner beaucoup d'épaisseur au fameux Global Britain. Côté français, je rejoindrai ce qui vient d'être exprimé sur la question de l'image et en fait du renversement de traitement de la presse anglo-américaine à l'égard du président Macron. Alors, je pense qu'il faut regarder ça de manière assez fine. Il y a un sujet qu'on rencontre tous, je pense, dès qu'on voyage à l'étranger, qui est le caractère presque impossible d'expliquer la laïcité dans une autre langue que le français, en réalité. Il y a aussi, à mon avis, pour relativiser ces critiques, des lignes éditoriales, je pense en particulier à celle du New York Times, qui, au fond, est une ligne très, très idéologique et qui correspond à une certaine évolution de la gauche américaine sur laquelle on pourrait revenir. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la France d'Emmanuel Macron, il y a une chose qui est constante et qui ne peut pas être reprochée au président Macron, c'est son engagement pro-européen depuis son élection. Et de ce point de vue-là, il y a eu à la fois, effectivement, au début de la crise du Covid, des signes de réflexes nationaux, parce que quand on a un problème, effectivement, c'est pas l'OMS qu'on appelle, mais on se tourne vers ses autorités nationales, et ça montre à quel point ce cadre-là reste le cadre de référence. Et puis, je trouve que au fil de l'année, il y a eu à la fois l'évolution de l'Union européenne vers une possibilité de transfert financier, ce qui est un pas, pour le coup, à mon avis, important. Il y a eu un certain nombre d'initiatives et avec une portée symbolique qui ne sont pas négligeables. Et puis, je pense que la notion de souveraineté technologique est en train de faire son chemin en Europe. Donc moi, je serais là aussi plus nuancé. Quand je compare, au fond, les politiques étrangères britanniques et françaises, je vois plus de résultats côté Paris que du côté de Londres.
Alors, Valérie Niquet, sur le registre affirmation des puissances, alors bien sûr, il y a beaucoup de sujets que j'avais évoqués en introduction, sur lesquels on n'a pas eu le temps de revenir, et je pense en particulier à la Turquie et à la Russie qui, pendant la pandémie, en ont profité pour avancer des pions. La Chine n'a pas été en reste, je pense, et c'est aussi un des éléments importants du bilan 2020 qu'il convient de faire, c'est la question de Hong Kong, Valérie Niquet, avec la loi de sécurité nationale draconienne, et là aussi, un pas supplémentaire de la Chine sur l'île.
Oui, alors effectivement, Hong Kong appartient à la Chine officiellement depuis 1997, donc il n'y a pas eu de changement de nature. La seule chose, c'est que ce qu'on voit à Hong Kong, c'est que le régime chinois poursuit dans sa stratégie de fuite en avant autoritaire. C'est le choix qu'avait fait Xi Jinping en arrivant au pouvoir, l'idée que l'ouverture pouvait déboucher sur une réforme ou une évolution, un changement de régime qu'il ne souhaite absolument pas. La grande crainte de la Chine, ça reste l'effondrement de l'URSS. C'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre les actions du régime chinois actuellement. Et la reprise en main à Hong Kong, c'était justement dans cette ligne-là, faire taire tout ce qui pourrait être possibilité de critique, de remise en cause, de fenêtre d'ouverture. Et en même temps, ce genre d'action à Hong Kong aujourd'hui, également ce qui se passe au Xinjiang, dont on a beaucoup parlé maintenant, alors que ça existe depuis des dizaines d'années, eh bien, ça met aussi en avant le caractère agressif d'un système chinois qui aurait pu surfer d'une manière très positive sur ses succès, entre guillemets, face au Covid-19, mais qui, par ses choix de diplomatie extrêmement agressive, eh bien, finalement, auto-saborde sa propre image, puisqu'il faut quand même rappeler que l'image de la Chine aujourd'hui dans le monde s'est dégradée d'une manière considérable. Je pense notamment à certains pays du continent africain ou même à l'Europe centrale ou orientale. Donc, on est là face à un système politique qui a une très grande difficulté d'adaptation et d'analyse fine et dont l'idéologie et la volonté de survie du système politique passent avant des décisions qui lui seraient beaucoup plus bénéfiques.
Merci Valérie Niquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de La puissance chinoise, un géant fragile, point d'interrogation aux éditions Talendier. Et Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont je signale la parution de deux revues, l'édition 2021 de la revue Ramsès, avec pour titre Le grand basculement, point d'interrogation aux éditions Duno, et le dernier numéro de Politique étrangère consacré au Brexit. Et Bertrand Badi, qui était avec moi en studio, professeur de relations internationales à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, aux éditions du CNRS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.